les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ceux dont le cœur lui appartient. Il entend tes prières, il connaît tes misères, les secrets de ta vie. Il t'aime à l'infini, il a souffert pour toi, la mort à Golgotha, et c'est pour te sauver qu'il est ressuscité. Du haut des cieux, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ceux dont le cœur lui appartient. Il te donne la foi et reconstruit en toi tout ce qui est détruit. Oh, donne-lui ta vie, mets ta main dans sa main et confiance en demain. Jésus est ton Sauveur, voilà le vrai bonheur. Oh, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ceux dont le cœur lui appartient.
J'arrive pas à me réveiller, hein. C'est la chaleur. La différence entre le froid et le chaud, ça me perturbe un petit peu là. Et puis il faut dire qu'ils m'ont vraiment fait travailler là-bas au Togo. Oh yeah, ils ont pressurisé le. Mais c'était magnifique. Gloire à Dieu, je regrette rien. C'était magnifique. J'étais reçu par le pasteur John Clouzet et son épouse Léontine. Et toute une flopée d'autres pasteurs magnifiques. Et on a passé des moments vraiment extraordinaires, surtout dans deux villes. Une qui s'appelle Kpalimé, qui est pas très loin de Lomé, et puis Lomé même. Et là, on a eu quatre réunions d'évangélisation le soir, en plein air. Et puis autrement, c'était des séminaires pendant 2 jours et puis deux cultes dimanche passé. Et il y a eu beaucoup de guérisons, vraiment beaucoup de guérisons. C'était étonnant, magnifique. Et les gens sont des gens de foi extraordinaires. Et puis bon, nous aussi, nous avons la foi, mais nous vivons un autre temps ici. C'est autre chose. Là-bas, c'est quelque chose qui. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce n'est pas même une question de foi. Il y en a qui me disent oh, ils ont plus la foi, ou alors ils ne se cassent pas la tête à réfléchir. Donc, non, je crois que c'est simplement une mouvance de l'esprit sur l'Afrique. C'est quelque chose de particulier en ce moment. Et ceux qui connaissent, ils savent qu'il y a tellement de pauvreté, tellement de besoins. Et Dieu est un bon Dieu là-bas. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon ici, mais ici nous avons tellement des moyens de pouvoir nous débrouiller. Mais là-bas, il n'y a rien. Ceux qui savent, ceux qui connaissent, ceux qui ont été. Voilà, donc je voulais vous transmettre les salutations de tous ces pasteurs, de tous ces frères et sœurs qui m'ont prié de bien vous saluer, bien vous embrasser. On a compté plus de 1000 personnes qui se sont approchées à l'appel et le premier soir, il y en avait tellement, je dis, mais attends, c'est pas possible, il doit y avoir des chrétiens par là-dedans. Alors, le deuxième soir, j'ai bien insisté, puis les autres soirs aussi. Je ne veux que ceux qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Mais il y avait énormément de monde. Alors, c'est bien, gloire à Dieu, hein, ça fait plaisir. Vous voyez, tout ça, c'est le résultat de vos prières, mais c'est le résultat aussi de vos semences d'argent, parce que sans argent, on ne peut pas le faire. Donc, parce que ça coûte, tout ça, ça coûte. Et là-bas, ils ont payé beaucoup, hein, même s'ils sont pauvres. Ils ont payé beaucoup, vous vous rendez compte. Dans les deux villes, ils m'ont offert l'hôtel avec chambre climatisée. Ça, C'est impressionnant quand on sait ce qu'ils gagnent, ces gens-là, comment ils vivent. Ils ont vraiment, ils sont démenés, ils ont loué des sonos, ça, ils ont fait ça, ils ont payé eux-mêmes ça. C'était vraiment extraordinaire. Et même un projecteur pour pouvoir projeter un film que j'avais apporté. Vraiment, ils croient dans notre ministère et ils ont investi dans le ministère. C'est bien qu'ils le fassent, mais je trouve que, enfin, je ne parle pas de la communauté ici, vous êtes très généreux, mais je pense aussi à tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous pourriez faire un geste aussi dans ce sens et pas simplement dire Alléluia, c'est bien. Parce qu'Alléluia, c'est bien. C'est comme quand on fasse, c'est comme dans Facebook quand on marque j'aime, vous savez. Bon, voilà, j'aime. Mais de parler, de s'exprimer, de donner quelque chose, un avis, un commentaire, une prière, un peu d'argent, ben ça ne fait pas de mal non plus, ça aide plus que simplement « Ah, c'est bien, alléluia !» Voilà, je ne dis pas ça pour faire des reproches à ceux qui nous écoutent, mais un petit peu quand même, vous pourriez semer dans l'œuvre de Dieu, ça serait très bien pour nous, mais aussi pour vous, parce que celui qui sème, il récolte. Amen. C'est bien. Ce matin, je voudrais lire dans Marc chapitre 4, versets 26-29. Là-bas, j'ai pu apporter quand même un peu d'argent pour donner à gauche, à droite. Et, ils étaient très reconnaissants. J'ai visité une église sur la route entre Palimé et Lomé. C'est une église où vous y mettriez même pas votre tondeuse, quoi, je veux dire. C'est terrible, c'est terrible. Mais voilà, ils ont que ça. Alors, quand il pleut, ben, ils peuvent pas aller à l'église parce que ça passe à travers le toit qui est en paille. Ah, c'est terrible. Mais quelle joie, quel enthousiasme ils ont là-bas pour. C'est pas qu'ils travaillent pas. Hein, ils sont, on voit, ils sont des gens qui sont actifs. Mais bon, il y a une grande pauvreté là-bas. Marc chapitre 4, versets 26-29. Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit des jours, la semence germe et croît, du verbe croître, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Alors, Matthieu, dans son évangile, et Marc cite tous les deux la parabole du semeur et des quatre terrains. Vous vous rappelez les quatre terrains différents. Et puis Matthieu, tout de suite après la parabole du semeur et des quatre terrains, il cite la parabole de l'ivraie et du bon grain. Vous savez, cette parabole qui dérange, hein, la parabole qui révèle qu'il y a deux races d'êtres humains sur la terre, c'est une parabole qui dérange. Et puis, on ne peut pas l'interpréter. Jésus lui-même a donné l'interprétation. Donc, il y a des fils du royaume, des fils de Dieu, et qui ont Dieu pour père. Et puis, il y a les fils du malin. Ils ont été semés par le diable. Ils ont été semés sur la terre par le diable. Le diable est leur père. C'est pas que. Alors, oui, il y a quand même des gens qui trouvent moyen d'interpréter ça en disant, oui, Dieu est notre père à partir du moment où on se convertit. Non. Non. Il est notre père ou il n'est pas notre père. Nous, on était perdus par notre père sur cette terre et il est venu pour chercher ceux qui lui appartiennent. Donc, il a toujours été notre père, à nous autres qui sommes les élus. Et puis, il y a les autres. Ben voilà, c'est une parabole qui dérange énormément. Les fils du malin, semés par le diable, ça, c'est terrible. Ça embête tout le monde. Sauf nous, parce que bon, on est au clair, on sait, on a connu, Dieu nous a révélé, c'est bon. On sait que Caïn est le premier-né des fils du diable, alors. Amen. Donc, Marc, lui, il parle de la semence et des quatre terrains, exactement comme Matthieu. Hein, vous savez, la semence est tombée dans un terrain, et puis il y a les petits oiseaux qui sont venus, puis il explique, les petits oiseaux, c'est le diable, et puis ensuite, il y a un terrain pierreux, c'est-à-dire il n'y a pas de profondeur, c'est des gens qui n'ont pas de profondeur, ils écoutent, mais ça ne donne rien, parce qu'il n'y a pas de profondeur. Et puis d'autres, c'est il y a les soucis de la vie, hein, c'est les ronces, c'est toutes ces choses-là. Puis d'autres, c'est un bon terrain qui produit, etc. Donc vous connaissez cette parabole. Mais il n'aborde pas, Marc, la parabole dérangeante des deux semences et des deux semeurs dans le même terrain ou dans des terrains différents. Il raconte la parabole de la lampe, qu'on ne doit pas placer sous un lit. Et puis ensuite, il écrit au sujet de la parabole de la semence qui pousse en secret. Et ce matin, je vais vous parler justement de la parabole de la semence qui pousse en secret. Il n'y a que Marc qui raconte cette parabole. Vous la trouvez nulle part ailleurs. Il n'y a que Marc qui raconte ça. Et il n'y a aucun document qui nous dit que les disciples ont demandé l'interprétation de cette parabole. Jésus n'a pas donné l'interprétation de la parabole de la semence qui pousse en secret. Et ce qui fait que les théologiens, les exégètes, ont beaucoup discuté sur cette parabole. Alors, il y a beaucoup de questions, mais la plus grande question, c'est mais qui donc est le semeur dans cette parabole? Qui est le semeur dans cette parabole? Dans la parabole du semeur, des quatre terrains, le semeur, c'est Dieu, c'est clair. Là, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, il y a deux semeurs. Il y a Dieu et il y a le diable, c'est clair. Mais là, c'est qui le semeur? C'est qui le semeur? Ça ne peut pas être Dieu, parce que si c'est Dieu le semeur, comment se fait-il que la semence germe et croît sans qu'il sache comment? Dieu sait tout. Donc le semeur, ce n'est pas Dieu. Vous suivez? Hein, Dieu sait tout, donc le semeur de Marc 6, 26, 29, ça ne peut pas être Dieu. Est-ce que ça serait le diable? Ben, je ne peux pas y croire, parce que ce n'est pas le diable qui va mettre la faucille quand la moisson sera prête. Donc, parce que la Bible nous dit dans Matthieu 13, 39 que ce sont les anges qui moissonnent. Donc, ce n'est pas possible. Alors, qui est le semeur de Marc 6, 26? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. Frères et sœurs, personne n'a donné d'interprétation, ni les apôtres, ni Jésus. Il faut quand même bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, je vais me permettre une interprétation. Oui, Michel, tout ce que tu dis, c'est des interprétations de la parole de Dieu. Oui, mais il y a des interprètes inspirés, puis il y en a qui ne sont pas inspirés. Alors, vous croyez que je suis inspiré, vous croyez que je ne suis pas inspiré. C'est là tout le problème. Le semeur dans cette parabole, c'est celui qui témoigne. Le semeur dans cette parabole, c'est celui qui prêche, c'est celui qui enseigne. Et la semence que nous semons, eh bien, c'est la parole incorruptible de Dieu. Paul était un semeur de la parole incorruptible. Il semait des semences incorruptibles. Il écrit aux Corinthiens, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?» 1 Corinthiens 9:11. Vous voyez, il dit un peu comme ce que j'ai dit au début de la prédication. Je sème la parole de Dieu, la moindre des choses, c'est quand même pas une grande affaire que que nous puissions moissonner vos biens temporels. Qu'est-ce que ça veut dire les biens temporels? C'est pas des bonbons à repos. C'est bien les bonbons à repos. Mais bon, les biens temporels. Vous savez ce que ça veut dire? La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et elle pousse en secret en vous qui la recevez. Vous vous rappelez, l'autre jour, je vous ai dit, notre âme, c'est le gardien de notre esprit. Et notre âme, elle choisit de recevoir ou pas ce qu'on veut mettre dans ce qui se présente à la porte. Jésus enseigne que la parole qui est semée, Jésus est en train de dire que c'est la parole qui est semée. Il le dit dans Marc 4, 15. Parce qu'on pourrait dire, c'est quoi cette semence aussi? Bon, le semeur, maintenant, on a vu, c'est pas Dieu, c'est pas le diable, c'est nous. Mais qu'est-ce que c'est la semence? Ben, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui dit ça dans Marc 4, 15. Mais il dit aussi que cette semence, elle peut être volée. Elle est incorruptible, mais elle peut être volée. Elle est incorruptible, mais elle peut être piétinée. Elle est incorruptible, mais elle peut être étouffée. Pierre nous enseigne au sujet de la semence parole et il dit que nous avons été régénérés, c'est-à-dire recréés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et la parole permanente de Dieu. 1 Pierre 1:23. Incorruptible, vivante, permanente? Oui, cette parole, elle est absolument tout cela. Mais encore faut-il que vous soyez une bonne terre. Vous voyez que cette parabole, elle va avec d'autres. On ne peut pas sortir cette parabole du contexte des autres paraboles. Si on ne connaît pas les autres paraboles, on ne comprend pas ce que celle-là veut dire. Il faut que ça soit un terrain bien gardé. Votre terrain, il faut le garder. Ce n'est pas à Dieu de le faire. C'est pas au prédicateur de le faire. C'est vous qui devez protéger votre terrain et c'est vous aussi qui devez vous mettre dans telle position qu'il soit bien éclairé, bien arrosé. Vous savez, les gens sont ensemencés tous les jours. Tout le monde est ensemencé tous les jours. Et dans nos jours, encore plus que jamais, avec les médias, ils reçoivent toutes sortes, des tonnes de semences, des tonnes d'informations, des tonnes de paroles qui les influencent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis alors, c'est des choses, mais c'est contradictoire au possible. Mais contradictoire, comme c'est pas croyable. Et les gens ne savent plus tellement où ils en sont maintenant, parce que vous dites quelque chose, vous croyez avoir raison, puis d'un coup vous avez un commentaire en dessous qui vient vous dire « Non, mais c'est pas du tout ça, attendez, vous avez oublié que... » Puis alors, c'est mélange, c'est terrible. Les médias ensemencent le cœur des gens, et une fois qu'ils ont fait ça, ces journalistes chéris, chéris que j'aime tant, ben ils s'en inquiètent plus. Ils ont raison, ils s'en fichent. Ils savent très bien que ça va germer, ils savent très bien que ça va croître. Leur pouvoir, c'est le pouvoir de semer. Et après, ils s'en fichent. Ça met des fois la panique, hein, ce qu'ils disent. Mais ils s'en fichent. Ils savent pourquoi ils s'aiment, ils savent pourquoi ils disent ces choses. C'est voulu. On veut influencer le peuple, on veut le diriger, on veut l'influencer. Alors voilà, les publicitaires font la même chose, les politiciens aussi. En ce moment, on est gâtés, hein, à 20, je crois, 23 jours des élections, c'est ça. Et tous les gens s'ensemencent les uns les autres, se disant toutes sortes de choses qui vont germer et qui vont croître. Heureusement, les sales idées qu'ils sèment, parce que très souvent ce sont des sales idées, elles ne sont pas aussi puissantes que la parole de Dieu. Leurs paroles, elles peuvent aussi être volées, elles peuvent aussi être piétinées, elles peuvent aussi être étouffées, et en plus, leurs paroles, leurs semences, elles sont corruptibles. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne l'est pas. Les religions, par exemple, sèment des semences corruptibles, empoisonnées. Les religions, elles trafiquent la semence incorruptible. Vous allez me dire, comment c'est possible qu'on puisse trafiquer la semence incorruptible? Eh bien, en la transformant, ils sèment une semence génétiquement modifiée. Et ces semences, elles produisent des fruits que nous reconnaissons. Nous pouvons reconnaître. Le mystère de l'iniquité, vous savez, c'est un mystère pour tout le monde, sauf pour Dieu. Et le mystère de l'iniquité, ça reste un mystère, mais pas très longtemps, pour les yeux de ceux qui sondent vraiment les Écritures avec le secours du Saint-Esprit de Dieu. On voit très vite où est la semence hybride et où est la semence qui porte la vie. Il nous est donné de reconnaître les fruits. Et puis, par là, de reconnaître l'arbre qui porte les fruits. Mes frères et sœurs, les gens que nous pensions de confiance ne changent pas en réalité, juste leur masque tombe à la saison des fruits. C'est tout. C'est tout. Alors, que le monde se débrouille, que le monde se débrouille, point final. C'est tout ce que vous voulez que je vous dise. Nous, nous savons ce que nous semons. Et nous laissons la semence germer et croître d'elle-même. Elle est livrée à elle-même. Nous savons qu'elle est incorruptible. Même si les oiseaux du ciel peuvent venir la voler, même si des méchants, des inconscients piétinent tout ça, enfin bon, même si elle s'étouffe, si elle peut être étouffée sous les soucis, les ronces de la vie courante, la parole semée est incorruptible. Elle est de Dieu, elle est semée, et de toute façon, elle va revenir à lui en produisant son effet. Quel effet? Normalement, c'est la vie, mais elle peut aussi produire la mort. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes, pour les autres, une odeur de vie ou une odeur de mort. Vous voyez, mes frères et sœurs, il ne faut pas s'inquiéter. Le seul boulot que nous avons, c'est de semer la parole incorruptible de Dieu, la semer telle que Jésus nous l'a donné. Des fois, la parole qu'on sème, elle peut faire crever les outres. Ben, tant pis pour les outres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est grave, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'un homme doit aussi agir après avoir semé la parole de Dieu. Mais il ne va pas agir sur la semence elle-même. Il la laisse livrer à elle-même, parce qu'en elle-même, elle a la vie de Dieu. Celui qui sème la parole de Dieu, il va agir sur le terrain, c'est-à-dire sur le cœur de celui qui a reçu la semence. Il va l'arroser, c'est-à-dire il va prier pour cette personne qui a reçu, il va enlever les mauvaises herbes, par exemple les soucis, qui veulent essayer de voler la nourriture qui est nécessaire à la bonne semence pour pouvoir bien croître. Le semeur de semences incorruptibles, il va protéger du mieux qu'il peut, mais c'est de l'extérieur. Il va protéger la semence qu'il a semée en reprenant, en consolant, en émondant, vous voyez, toutes sortes de choses. Mais la croissance, elle dépend quand même de conditions et de forces sur lesquelles le semeur, le prédicateur, n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun contrôle. Ecclésiaste 1 nous dit, sème, voilà, et avec le temps, tu récolteras, tu retrouveras tout ça. Mais il y a un domaine sur lequel nous n'avons aucun contrôle. La puissance de la croissance, elle est dans la semence elle-même, dans la parole, c'est la puissance de vie. Et ce que Jésus faisait, en tant que semeur de semences incorruptibles, c'était de donner la parole avec l'autorité de son Père. Il parlait, la Bible nous dit, comme ayant autorité. Ça signifie qu'il parlait avec le droit divin. C'est une question juridique. On peut lire dans Jean 13, 49. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et il nous a envoyé faire la même chose que lui. Alors vous avez des gens qui sont mandatés pour le faire, puis vous avez des gens qui ne sont pas mandatés pour le faire, qui parlent de leur propre autorité. C'est là le problème. Et c'est à nous d'être sages pour reconnaître qui c'est qui parle de sa propre autorité et qui c'est qui parle parce qu'il était mandaté de Dieu. Le droit dans le sens juridique. Jésus parlait comme ayant autorité. Les religieux de son temps, pour ne pas parler de ceux d'aujourd'hui, parlaient de leur propre autorité, c'est-à-dire qu'ils parlaient sans avoir vraiment consulté Dieu, mais ils s'étaient consultés entre eux. J'ai vu encore ça au Togo. J'ai abordé quelques sujets avec les pasteurs et j'ai dit, mais vous savez que c'est dans la Bible? Oui. Alors pourquoi vous ne le prêchez pas? Ben, notre religion ne nous le permet pas. Vous voyez, c'est ou notre religion ne l'enseignant pas, nous ne cherchons même pas à savoir. Donc vous voyez, et ça a toujours été, les religieux, on va parler de ceux du temps de Jésus, ils parlaient sans avoir consulté Dieu, sans avoir été mandatés par l'autorité suprême, sans avoir reçu le pouvoir de parler au nom de Jésus, au nom de Dieu. Maintenant, il suffit que quelqu'un rate ses études de médecine, il va faire sa théologie, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, hein, et puis il devient pasteur, il n'a même pas besoin d'être croyant. Vous avez maintenant un bouquin qui est un best-seller, qui était écrit par un pasteur allemand qui est athée. Vous avez ça, vous avez toutes sortes. Mais des pasteurs athées, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui osent le dire. Lui, au moins, il a osé le dire. Mais maintenant, vous pouvez être pasteur simplement parce que vous allez à l'école biblique, c'est tout. Et puis parce que vous décidez que vous êtes prophète, vous êtes prophète. Vous allez dire partout, je suis prophète international. Il y aura toujours des nouilles pour vous croire. Hein. Ça, croyez-moi, il y en aura toujours. Ce que Jésus disait était incorruptible dans le sens que personne n'avait le droit de remettre en discussion ce qu'il avait dit. Comme dans la loi, quand le juge, quand celui qui est mandaté pour prononcer un jugement, prononce son jugement, c'est dit, c'est fait, c'est comme ça. Je me rappelle quand Michael Jackson avait été jugé pour cette horrible histoire de pédophilie, j'étais aux États-Unis et je regardais les informations. Et c'était, ils avaient interviewé Billy Graham, lui demandant, et qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ce que j'en pense, mais c'est que si les juges ont jugé qu'il est innocent, ben c'est qu'il est innocent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? C'est l'autorité. C'est eux qui ont l'autorité pour dire. Donc, je dis comme les juges, point. De toute façon, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. Les juges, ils connaissent toute l'histoire. Donc, s'ils ont jugé qu'il est innocent, il est innocent. Ils ont l'autorité. C'est ça, avoir l'autorité. On ne prend pas l'autorité, on la reçoit ou on ne la reçoit pas. Voilà. Ça signifie qu'on ne peut pas se permettre de trafiquer ses paroles si on a été mandaté. Ben non, il y en a qui peuvent le faire, mais ceux qui ont été mandatés ne le font pas. N'importe qui peut trafiquer les paroles de Dieu, mais quand quelqu'un le fait, il y en a qui ont essayé. Vous pouvez le faire, c'est vous qui voyez. Mais ils ont eu des problèmes, puis ils en ont encore. Mais nous n'avons pas le droit. Quand quelqu'un le fait, la vie qui est dans la parole qu'il a trafiquée, elle n'y est plus. C'est-à-dire que ça devient une parole hybride. Alors, qu'est-ce que c'est hybride? Eh bien, pour faire comme Alain Mesme, je vais parler latin. Et en latin, hybride, ça signifie, mais ça c'est curieux, ça signifie sans mêler. S-A-N-G, sans mêler. C'est-à-dire, la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Ça veut dire vie mêlée. Une parole de Dieu qui est hybride, c'est une parole qui n'a pas le pouvoir de produire la vie divine vraiment parce qu'elle est mêlée à une autre sorte de vie. Vous voyez? Ce qu'il nous faut dans nos cœurs, ce sont des paroles de Jésus telles qu'il les a dites. Il a dit ça comme ça, eh bien on dit ça comme ça. Et puis même si on a de la peine à y croire, c'est comme ça. Les disciples, ils ne comprenaient pas tout. Est-ce que Jésus leur en a voulu? Non, de temps en temps, ils disent, oh, j'en ai marre, combien de temps je vais rester avec vous? Mais quand même, bon, il les a envoyés avec ce qu'il leur avait dit, en leur faisant confiance qu'ils allaient redire précisément ce qu'il avait dit. Et il fait la même chose avec nous, même si on n'a pas encore tout bien compris, on est mandaté pour le faire, nous avons reçu le Saint-Esprit pour ça. Alors, ce sont les paroles que Jésus a dites, que les apôtres ont dit, que nous trouvons dans les Écritures, c'est alors, si nous les disons, c'est alors que la vie assure la croissance. La vie qui est en elle-même, dans la semence, dans la parole. Le semeur, alors, le prédicateur, le témoin, peut s'occuper d'autre chose. Il peut aller s'occuper d'autre chose. Le semeur, il n'a plus, il n'a pas du tout l'obligation de s'occuper de façon exclusive des terrains sur lesquels il a semé la parole de Dieu. Je sème la parole de Dieu, mais maintenant, je n'ai pas à m'occuper exclusivement de vous, tout le temps. Non, un minimum, voilà. Comme Philippe est en ce moment en train de faire un jardin, ben, il s'en occupe un petit peu, mais dis donc, il n'y passe pas 24 heures sur 24. D'accord? Voilà, c'est ça. D'autres, il y a d'autres influences qui vont venir. Des bonnes influences, puis des mauvaises. On a déjà vu les mauvaises, hein, les oiseaux, les pierres qui font que, voilà, les soucis, les ronces, tout ça. Mais les bonnes sont l'influence du soleil, de la pluie, de la brise, de la rosée. Hein, on connaît tout ça, le soleil, c'est le soleil de la justice, la pluie. Lisez Enoch, lisez le livre Paroles cachées, et vous allez trouver qu'est-ce que c'est la pluie, la brise, la rosée, la neige, les glaces, les vents. Toutes ces choses qui ont une influence, Enoch dit ce que c'est, il y a des réserves de tout cela. En fait, ces éléments sont les types de la puissance des anges. Il y a des anges qui sont préposés à ceci, des anges qui sont préposés à cela, et leur action, il y a une action des anges sur votre vie, sur la parole qui était mise en vous, et ils agissent. Lisez Enoch, vous allez voir. Si celui en qui se trouve la bonne semence veille, arrache les ronces, ne se laisse pas étouffer par les soucis, veille à ne pas se faire piétiner par ceux qui se déguisent en brebis mais qui en réalité sont des loups, s'ils font attention de chasser les oiseaux, c'est-à-dire les démons, hein, on est avant tout des chasseurs de démons, les oiseaux là représentent les démons, très souvent les oiseaux représentent les démons. Hein, vous rappelez la semence qui pousse et qui donne un arbre magnifique dans lequel viennent piailler les oiseaux. Les oiseaux, c'est les démons qui viennent piailler dans l'église. Ils viennent faire leurs besoins dans l'arbre. Mais il faut les chasser, ces oiseaux mignons, tout ce que vous voulez, mais c'est des démons. S'il veille, il verra la semence devenir une pousse qui se développe. Puis ensuite, ça va devenir un épi, et puis ensuite, ça va devenir, en son temps, le blé complet dans l'épi. Et puis, c'est Dieu qui va enlever la balle, et ensuite, il y aura la moisson. C'est un processus, ça se passe en nous, en chacun d'entre nous. Et lorsque la moisson viendra, eh bien, celui qui aura semé, ben, il aura sa récompense. Donc, si vous voulez des récompenses, ben, c'est surtout là-dessus qu'il faut miser. Il y a des gens qui disent en ce moment, c'est quoi le bon marché? Alors, ils disent, ben, c'est l'or. Alors, l'or, c'est vrai, c'est formidable, l'or, hein, c'est vrai, c'est extraordinaire de miser sur l'or. Il y en a qui jouent à la bourse. Ils ont des problèmes depuis quelques années, ils ont essayé. Mais nous aussi, d'ailleurs, on avait essayé un temps, il y a quoi, il y a 10-15 ans, mais quelle horreur. C'est pas possible. La, la, Il faut miser sur la parole incorruptible de Dieu. C'est ça que nous avons à faire. Semez ça, vous aurez votre récompense. Semez ça, vous aurez votre récompense. Si vous ne pouvez pas la semer parce que vous êtes âgé, ou si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, vous ne pouvez pas. Il y a toujours Internet, on peut beaucoup faire par Internet. Mais même si vous ne pouvez pas faire par Internet, vous pouvez semer de l'argent pour aider ceux qui vont semer. Voilà, comme ça. Quand eux, ils vont semer, ben c'est grâce à vous, vous partagerez la récompense avec eux. Le semeur, cette parabole, c'est le prédicateur inspiré. Le semeur de cette parabole, c'est le témoin qui est fidèle à la parole et qui est doté d'autorité. C'est le témoin fidèle qui plante la semence de l'évangile dans le cœur des gens sans faire attention cette personne, c'est un terrain ceci ou si c'est un terrain cela. On sème partout. Mais il ne sait pas quel sera le résultat, mais en quelque sorte, ça ne le regarde pas. Le résultat ne dépend pas du semeur, mais de celui qui a été ensemencé. Les prédicateurs, après, ils vont ailleurs. Ils vont semer ailleurs. Là, je reviens d'avoir semé au Togo. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? J'ai semé, voilà. Ben, maintenant, je suis parti, je suis revenu ici, puis après, je vais aller ailleurs, puis après, je vais encore aller ailleurs. Je retournerai certainement chez mon frère John là-bas parce que c'est un bon terrain, donc il faut semer encore, mais je ne peux pas y rester tout le temps, de façon exclusive non plus. Donc je m'occupe de mes devoirs dont j'ai été chargé dans d'autres domaines que simplement d'apporter l'évangile aux Africains. Le prédicateur, il laisse à Dieu le résultat de son semis. Dieu, voilà, fais ce que tu veux. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, Seigneur, agis sur cette semence. Et puis alors, le prédicateur, le témoin fidèle, le simple chrétien qui est témoin, eh bien, il se réjouit. Parce que nous avons tous le ministère de la réconciliation. C'est un ministère. Eh bien, on se réjouit par la foi de la moisson qui va faire qu'un jour, on aura notre récompense. Est-ce que vous vous réjouissez déjà d'avoir votre récompense? Vous allez, vous savez, se réjouir d'avoir la récompense, c'est pas simplement se dire, ouais, un de ces jours j'aurai une récompense. Non, c'est de faire comme si on l'avait déjà. Et trouver en soi l'émotion, le sentiment que cela va vous produire. Vous allez voir, si vous avez des tristesses, si vous avez des chagrins, si vous avez des peines, et puis que vous vous mettez à réfléchir aux récompenses que Dieu va vous donner pour le bon service rendu pour le royaume de Dieu, mais vous allez cultiver cette joie, elle va effacer tout le reste. Mais vraiment, parce que c'est la plus belle des choses, c'est là où il y aura le plus de récompenses, c'est d'avoir été un semeur de la parole de Dieu. Vous voyez cette parabole? Elle s'adresse donc aux cinq ministères et à tous ceux qui témoignent de ce qu'ils vivent avec Jésus, selon 1 Jean 8. C'est une instruction pour les ouvriers dans le champ du Seigneur. Mais voilà, on est des ouvriers, pas des bricoleurs. Un ouvrier, il travaille dans les règles. Il travaille dans les règles, il ne va pas bricoler avec ça. Il va travailler d'une façon méthodique. Il va travailler, premièrement, il faut que lui-même, il soit correct. Et pour le semeur, moissonneur, élu, il prêche, il témoigne, et immanquablement, un jour, viendra la récompense. Elle peut venir déjà ici-bas. Et puis elle peut, mais j'espère, ici-bas c'est bien gentil, mais tout ce qui est ici-bas, ça périt. Moi je préfère avoir ma récompense quand je serai dans le ciel. Amen. Même si ceux en qui vous avez semé négligent la parole de Dieu, même si cela font voler par le diable, comme dans Marc 4, 15, même s'ils la laissent étouffer par les soucis de leur vie, comme dans Marc 4, 18, 19, même s'ils ont peu de profondeur, comme dans Marc 4, 16, 17, peu importe. La parole que vous semez reviendra à Dieu selon Ésaïe 55, 11. Ça ne s'est jamais perdu. Et Dieu s'en servira de cette parole que vous avez semée contre eux au jour du jugement. Il dira, mais vous avez reçu la parole, mais vous vous êtes laissé voler. N'avez pas fait attention. Vous avez reçu la parole, mais vous aviez pas de profondeur. Il fallait labourer votre terrain, il fallait enlever les pierres. S'il y avait un travail à faire sur vous-même, vous ne l'avez pas fait, vous avez été négligent. Il les jugera à cause de la parole que nous avons semée. Hein? Ceux qui ont des soucis, qui disent, mais j'ai pas le temps parce que j'ai trop de choses à faire, comment dire, j'ai ça, puis, ah oui, je sais bien, mais bon. Ben, les paroles que nous aurons, Jésus dit, c'est pas moi qui vous jugerai. C'est les paroles que j'ai dites qui vous jugeront. Bien, pour les prédicateurs, c'est la même chose. Pour les témoins fidèles de l'Évangile, c'est la même chose. Ce n'est pas moi qui vous juge, c'est les paroles que je vous dis. Elles ne vous jugent pas maintenant, tout de suite, dans l'immédiat, on ne voit rien, mais elles vous jugeront. Elles vous jugeront. C'est terrible. Vous voyez, il y a toujours les deux côtés. C'est pourquoi on a une épée ici. Ce n'est pas simplement parce que c'est Laurent Bourg qui me l'a offert et que c'était le jour de mon anniversaire et qu'elle est très belle. Non, c'est parce qu'elle est un symbole puissant. C'est la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Soit elle tranche ce qui ne va pas dans votre vie, soit elle vous le tranche la tête. C'est la vie ou la mort. La parole de Dieu, c'est ça. La parole que vous avez semée, elle reviendra toujours à Dieu. Et vous, vous aurez servi à instruire le procès contre ces gens. Voyez ce que vous êtes juridiquement devant Dieu dans le royaume. C'est un royaume avec une autorité, c'est celle de notre Père Céleste. De toute façon, le travail que vous faites sera récompensé d'une façon correcte, juste. Si, quand ils reçoivent la bonne parole incorruptible que vous semez, ils se permettent de la traficoter, eh bien, n'ayez pas de soucis, ils ont fait ça avec Jésus. Jésus, lui, il a donné la parole qui, la plus pure qui a jamais été entendue. Regardez ce qu'ils en ont fait. Bon, ne vous étonnez pas s'ils trafiquent les paroles que vous dites. Hein, ce n'est pas grave. Ah ouais, Michel, il a dit que... Pff, on s'en fiche de ce que les gens disent, ce que j'ai dit. Ce n'est pas ça qui est... Ce n'est pas important. N'ayez pas de soucis. Ils ont fait la même chose avec Jésus. Ce que Dieu attend de chacun de nous, mes frères et sœurs, c'est que nous soyons d'inlassables semeurs de la parole incorruptible de Dieu. Qu'on la comprenne bien, qu'on l'ait bien assimilée, qu'on en vive, parce que comme disait mon très cher ami Paillon, si tu ne vis pas ce que tu prêches, jamais ce que tu prêches n'apportera la vie. Il y a raison. C'est notre raison d'être sur la terre. C'est d'être des semeurs de la parole incorruptible de Dieu. Ne retenez pas injustement ce qui vous a été donné. Maintenant, vous voulez faire, parce que je sais, il y a des traités évangéliques qui sont bien gentils, avec sur la couverture un beau nénuphar ou je ne sais pas quoi. Maintenant, avec, je fais de la pub, avec Vistaprint, vous allez faire votre traité personnalisé avec votre photo, avec votre témoignage. Vous pouvez le faire. C'est à vous de le faire. Si vous êtes mandaté, si vous avez vraiment, si vous vivez ce que la parole de Dieu dit de vivre, eh bien votre parole portera du fruit. On n'a aucune excuse. On vit dans une époque où il n'y a aucune excuse. On ne peut pas dire je ne peux pas. Si on peut. Ne retenez pas injustement ce qui vous a été donné. Donnez-le à tous. Dieu reconnaîtra les siens et fera germer et croître où il voudra. Amen. Seigneur, je te prie. Afin que mes frères et sœurs ne croient pas que c'est simplement un ministère spécial qui me permet d'aller là-bas pour prier pour les malades. Avant de prier pour les malades, je ne savais pas le faire. Et j'ai appris. Eh bien Seigneur, n'importe qui peut le faire. Je le sais, je te prie que cela devienne une conviction dans chacun d'entre mes frères et sœurs, de tous ceux qui écoutent ce message. Et qu'ils puissent voir que ta parole... prêcher, t'accompagner et confirmer par des prodiges, par des miracles. Ainsi, cela fortifiera leur foi et ils auront envie d'aller davantage, d'aller faire plus en voyant que tu es avec eux et que tu confirmes. Merci Seigneur Jésus d'aider chacun et chacune à être un excellent semeur de la parole incorruptible que tu nous as confiée. Merci Jésus. Amen.